Il y a quelque temps, je regardais une émission qui s'appelle True Detective. Même en français, hein, vous en gardez le titre en anglais. C'est l'histoire de deux détectives de Louisiane. Ils s'appellent Marty et Rust. Et ils sont chargés de résoudre un meurtre. Bon, ils se connaissent pas très bien, ils sont partenaires depuis 3 mois. Et c'était la première épisode. Et ils sont en train de rouler sur une route de campagne, ils sont en train de se parler. Et là, j'ai entendu, ne croyez pas à mes oreilles, la conversation la plus philosophiquement intéressante que j'ai jamais entendue dans un film. Écoutez, hein, je l'ai reproduit ici, hein. J'ai triché, hein, j'ai vu ça sur YouTube. Alors, j'ai piqué ça. Il y a Marty, bon, c'est soi-disant un chrétien, mais pas un très bon chrétien. Hein. Il dit, en quoi tu crois? Parce qu'il cherche à connaître son partenaire. Je me considère personnellement comme un réaliste, mais en termes philosophiques, je suis ce qu'on appelle un pessimiste. La conscience humaine est sans doute l'une des erreurs la plus tragique de l'évolution. Nous sommes devenus trop conscients de nous-mêmes. La nature a créé un aspect d'elle-même qui ne lui appartient plus, appartenait plus. Nous sommes des créatures qui ne devraient pas exister selon les lois naturelles. C'est affreux ce que tu me racontes. Nous sommes des choses obsédées par l'illusion d'avoir un moi. Cette accumulation de sensations et d'expériences sensorielles, oui, ça passe à la télé, hein, c'est incroyable. Des choses programmées avec l'assurance que chacun d'entre nous est une personne, alors que la vérité, c'est que nous ne sommes personne. Je ne débiterais pas ces conneries à la ronde si j'étais toi. Les gens du coin, ils pensent pas comme ça. D'ailleurs, moi non plus. Je pense que la solution convenable, ce serait de refuser ce pourquoi on est programmé, ne plus se reproduire, marcher main dans la main vers notre extinction, notre dernière nuit, frères et sœurs, votant ensemble la rupture d'un contrat abusif. Alors, à quoi bon de sortir de ton pieu le matin? Je me dis que je sers de témoin, mais la vraie raison, c'est que c'est pourquoi je suis programmé, aussi je suis trop lâche pour me suicider. Vraiment, hein? C'est intéressant. Je ne croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu ça. Mon nom est personne. Il y a un film comme ça, sorti il y a longtemps. Alors, l'athée, on peut imaginer sa réponse à ce que nous avons dit jusqu'ici. D'accord, ma vision du monde matérialiste me pose d'énormes problèmes dans le domaine des valeurs suprêmes. Je comprends cela et je l'assume. Mais au moins, j'ai moi-même. J'ai mon propre moi. Merci, Dieu merci. Ah, je veux dire, merci à la sélection naturelle. J'ouvre mes yeux tous les matins. Je regarde le monde qui s'étend devant moi. J'ai ma propre personnalité, j'ai mes propres idées, j'ai mes propres projets, mes propres pensées, désirs, amour, espoir, souvenirs, croyances. En tant qu'athée, je dois peut-être sacrifier l'illusion, la fiction chère à mon cœur, que nous autres êtres humains, nous avons une valeur réelle et des droits de l'homme, ou que la vie a un vrai sens et un vrai but, ou que le bien et le mal existent vraiment. Bon, tu dois sacrifier ça. Mais au moins, j'ai moi-même. Désolé. J'ai le regret de vous annoncer que c'est pire que ça. Bien pire. Si nous sommes, vous et moi, des animaux évolués, et c'est tout, fruits d'une nature aveugle, impersonnelle, alors, ce détective Rust, il a raison. Il a raison. Nous sommes des choses obsédées par l'illusion d'avoir un moi. Alors que la vérité, c'est que nous ne sommes personne. Alors vous allez dire, ah oh, oui, mais ça c'est un programme de télé, c'est une émission de télé, ça compte pas. Écoutez, les grands penseurs athées n'ont pas peur de dire la même chose. Et ils le disent tout le temps. Par exemple, Daniel Dennett, ce qu'on appelle un nouvel athée, très célèbre, c'est un des philosophes contemporains le plus important de l'esprit. Et surtout, il parle souvent des retombées de la théorie de l'évolution sur cette question. Donc, c'est un athée, c'est un darwiniste. Voilà ce qu'il écrit. Nous savons aujourd'hui que chacune de nos idées, chacun de nos rêves, chacun de nos états d'esprit n'est rien d'autre qu'un événement qui se produit dans notre cerveau. Cette vue matérialiste est désormais communément acceptée. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on enseigne dans toutes les écoles. Sauf peut-être les rares écoles chrétiennes. Ici, c'est communément accepté parce que dans les milieux scolaires, c'est vrai. C'est accepté. Incontesté même. Cette vue matérialiste est désormais communément acceptée. Si complexe et intéressante soit-elle, la conscience n'est donc qu'un phénomène physique de plus, au même titre que le magnétisme ou la photosynthèse. C'est quoi? C'est un tour de passe-passe que notre cerveau nous joue. Et nous, notre cerveau, pour une raison évolutionnaire à déterminer, nous fait croire que nous sommes un moi. C'est une ruse. Hein? Parce que tout ça, c'est pour aider la reproduction et la survie. Il nous fait croire qu'il existe un moi qui perçoit la couleur jaune, qui écoute la musique de Bach, qui adhère à certaines croyances, qui nourrit des intentions, qui a des souvenirs, et qui quelque part s'imagine se trouver en dehors de ce processus physique, cette boîte fermée. Le moi s'imagine qu'il existe en dehors du monde physique. Mais ce n'est qu'un tour de passe-passe, un tour que nous joue notre cerveau. C'est ça qu'il dit. Nous ne sommes rien d'autre que nos cerveaux. Le moi, c'est le cerveau, hein, cette matière grise à l'intérieur de notre tête, en plus des illusions que nous fait croire notre cerveau. Voilà ce que nous sommes. Voilà le moi. Le moi est à l'étage. Il n'existe pas. Il n'est pas réel. La seule réalité réelle, c'est le cerveau physique. Voilà ce que nous sommes. Et c'est logique. C'est complètement logique avec la philosophie du monde naturaliste. Et Dennett, son idée, hein, qui est contestée par d'autres athées d'ailleurs, il dit que nous sommes, il y a des milliards de petits robots cellulaires, hein, des cellules, des molécules, hein, qui agissent ensemble, et personne ne sait comment, mais ça nous donne l'impression, hein, que nous avons un moi. Hein, on n'a pas de moi centralisé, on a des petites cellules, des robots qui font des calculs, un peu comme un ordinateur, et c'est ça qui produit notre personnalité. Ça, c'est sa théorie à lui, et qui est contestée non seulement par les chrétiens, mais par d'autres athées. Ce que nous croyons être nos idées, nos projets, des actes de notre volonté, quand nous faisons des choix, ce n'est que le résultat d'un traitement informatique des processus dans les cellules. C'est tout ce que nous sommes. C'est intéressant, il y avait un débat. On trouve beaucoup de choses, hein, sur YouTube. Mais un débat entre Dennett et puis un autre philosophe athée. Et cet autre philosophe contestait la théorie de Dennett. Et il dit, sa théorie ne ressemble pas au conte de l'empereur qui n'a pas d'habit. Il dit, c'est plutôt que l'habit n'a pas d'empereur. Parce que nous avons les apparences d'une vraie personne humaine, nous avons une âme, ce que vous voulez pas, un esprit, un moi. On a toutes les apparences d'une personne, mais on regarde à l'intérieur de ces apparences, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il y a les habits, mais il n'y a pas d'empereur dedans. Et Dennis, il a dit, c'est exactement ça. Francis Crick dit, c'est dans son livre L'hypothèse stupéfiante, vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, vos perceptions de l'identité personnelle, du libre arbitre, ne sont en fait rien de plus que le fonctionnement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et d'une molécule associée. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de neurones. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment Francis Crick et Daniel Dennett et Sam Harris et tous les autres, comment ils regardent ceux qu'ils aiment. Quand ils regardent leurs femmes ou leurs enfants ou leurs petits-enfants, est-ce qu'ils se disent ce n'est qu'un paquet de neurones? C'est la poussière dans le vent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des machines biochimiques, que leur personnalité unique est une illusion, un tour de passe-passe que leur fait, que leur joue, leur cerveau, leurs souvenirs, leurs ambitions, tout ce qu'ils sont n'est en fait rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui leur sont associées. Ils croient vraiment cela? Prenez le temps d'assimiler ces idées. La logique de la philosophie matérialiste est implacable et nécessaire. Même le sentiment de mon moi personnel, l'impression que je suis un moi, est une illusion créée par mon cerveau. Apparemment, ça augmente les chances de survie et de reproduction, quelque part dans l'évolution. Alors c'est comme si vous et moi, on se parade devant les autres y voient nos beaux vêtements, ils peuvent compatir avec nos épreuves, ils peuvent apprécier notre sens de l'humour, ils peuvent nous écouter, exprimer nos pensées, nos sentiments, mais quand on regarde dans ces habits, il n'y a personne. Le moi est une illusion. Une machine biochimique. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Comment est-ce que nous sommes passés d'une vision du monde où les âmes humaines sont créées à l'image de Dieu? Comment est-ce qu'on est passé de là à une vision du monde où nous ne sommes personne? Comment ça s'est passé? Bon, on n'a pas le temps de voir ça, c'est intéressant, c'est passionnant, vraiment très court. Le XVIIe siècle voit en Europe l'essor d'un mouvement qu'on appelle le rationalisme. Et l'idée principale de cette vision du monde, c'est que les principes qui sous-tendent le monde, qui sous-tendent la réalité, c'est exactement identique aux lois de la raison. C'est-à-dire, tout peut être expliqué par la raison humaine. Alors, il y a des scientifiques comme Galilée, Descartes et d'autres qui se lancent dans cette entreprise de fournir une description mathématiquement précise de toute la réalité physique. Et dans cette façon de voir, les expériences subjectives, c'est-à-dire les expériences que nous faisons en tant qu'êtres humains, notre perception de la couleur rouge, notre sensation de la douleur, nos désirs, nos craintes, nos ambitions, nos souvenirs, nos croyances, tout cela appartenait à l'esprit. Donc on ne cherchait pas à intégrer cela dans cette description du monde physique. D'accord? Ça c'est au XVIIe siècle. On croyait que l'esprit était irréductible en la matière. Que la matière et l'esprit étaient deux choses différentes. Alors, Descartes a sa propre vision de cela. Il voyait l'univers comme un énorme mécanisme, une énorme machine qui fonctionne selon des lois physiques implacables, inflexibles. Nos corps aussi, dit-il, sont des machines physiques et nos esprits. Ils sont quelque chose de différent. Nos esprits, nos âmes existent à l'intérieur de notre corps selon Descartes, un peu comme un fantôme dans la machine. Alors, il faut dire, hein, on appelle ça le dualisme cartésien. Tous les philosophes athées, matérialistes modernes, s'attaquent à Descartes sur ce point. Oh, c'est le méchant. Et on s'attaque au dualisme cartésien, parce qu'il a dit il y a deux dimensions, l'esprit et la matière. Bon, il faut vous avertir aussi, la vision de Descartes, c'est pas celle de la Bible. D'accord? Notre âme n'est pas un fantôme à l'intérieur d'une machine. Donc le pauvre Descartes, les chrétiens sont contre lui et les athées sont contre lui. Ce n'est que récemment que les scientifiques athées ont commencé à penser à la possibilité que l'esprit humain, ce qu'on appelle la conscience, c'est pas la conscience morale, hein, c'est ce qu'on appelle en anglais consciousness. Il ne faut pas confondre conscience et cela.
Conscience de soi,
si vous voulez. Et ils ont commencé à dire que la conscience, en fait, est purement matérielle, purement matérialiste. Et bon, on a fait des avancées dans la biologie moléculaire et on a vu que les événements biochimiques à l'intérieur de notre cerveau avaient une relation avec nos pensées. Et donc, il suffit de faire le pas suivant. Nos pensées ne sont que des processus biochimiques, hein, bioélectriques si vous voulez, à l'intérieur de notre cerveau. Il n'y a rien qui ne soit pas matériel dans notre pensée, dans notre esprit. Nos pensées, nos idées, nos intentions, nos souvenirs, tout cela, c'est des processus électrochimiques à l'intérieur de notre cerveau. C'est-à-dire, nous sommes notre cerveau. Le moi n'existe pas. Ça, c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. C'est intéressant. On a mentionné, bon, je vous ai lancé plein de noms de ces philosophes athées, mais Daniel Dennett, c'est intéressant. Il a pris un peu le contre-pied de ses collègues qui s'attaquent à la religion. Hein, vraiment, ils attaquent. C'est incroyable. Hein, leur attitude envers la foi. Ils sont vraiment arrogants. Hein. Il y a un snobisme et un élitisme. C'est horrible à voir. Hein, ils nous traitent de ploucs qui croient à des superstitions médiévales. Ils sont vraiment snobs. Hein. Voilà. Mais Dennett, il dit, c'est pas la peine de s'attaquer à la religion. Et lui, il s'abstient. Pourquoi? Il dit, ben, c'est assez dur comme ça de vivre dans un monde absurde, et on va leur enlever cette béquille. Il dit, vaut mieux leur laisser leurs illusions. C'est plus facile pour eux de supporter une vie sans signification. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, ils croient que la vie est absurde. Mais il dit, c'est pas la peine de s'attaquer à ces pauvres plus qui sont trop ignorants pour pouvoir, comme nous, affronter la réalité telle qu'elle est, même si c'est horrible. Intéressant. Alors, il n'y a pas de moi. Le moi est exclu dans le naturalisme. L'identité personnelle. Ce n'est qu'une image projetée sur un écran de chair par un assemblage de cellules nerveuses. Le moi, c'est ce morceau de viande à l'intérieur de notre crâne. Alors, on va avancer.